Bah bonsoir à tous et à toutes. Alors l'intervention que je vais vous apporter ce soir, je l'ai déjà apportée, j'ai un petit peu révisé, mais il y a à peu près 4 ans je crois, ici même à l'Interfac. Donc s'il y a des gens qui étaient là, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, il y a 4 ans, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Je l'ai un petit peu revu quand même. Mais voilà, donc si ça vous dit quelque chose, si vous étiez là à ce moment-là. Je précise, c'est à la demande de Daniel que je reprends une intervention que j'ai déjà faite. Donc, c'est pas histoire de recycler simplement mon travail. Si je comprends bien, vous êtes dans le cadre, je pense, d'une série sur l'évangile de Jean. C'est bien le cas. Et donc, on va examiner ce soir le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Donc Jean 15, 1 à 17, je lis dans une traduction qui s'appelle la Nouvelle Bible Seconde, donc les mots seront peut-être un peu différents dans le texte que vous avez sous vos yeux, mais c'est essentiellement c'est le même texte original. Jean 15, 1 à 17, je dirai quelques mots tout à l'heure sur le contexte de ce texte. « C'est moi qui suis la vraie vigne, dit Jésus, et c'est mon Père qui est le vigneron. » Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, serviteur, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Quelle est la vocation de l'être humain? Je pense que si on faisait un sondage, on obtiendrait sans doute des réponses assez diverses. Vous pouvez sans doute imaginer le type de questions le type de réponses qu'on obtiendrait. La Bible, elle, donne, on pourrait dire, une réponse centrale, une réponse majeure à cette question. Et je pense que si on résume vraiment les choses, on pourrait dire que selon la Bible, la vocation de l'homme, c'est d'appartenir à Dieu. Toute la Bible, en fait, se fait l'écho de cela, de cette vocation. Elle montre que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est ce qu'on voit dès le début de la Bible, créé à l'image de Dieu pour lui appartenir, pour être quelque part en vis-à-vis avec Dieu. Mais l'homme s'est révolté. Il souhaitait trop son indépendance, il souhaitait être autonome, il souhaitait ne plus appartenir à Dieu. Et en fait, cette révolte a apporté une rupture dans la relation entre l'homme et son créateur. Elle a introduit le règne du péché, de ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire l'hostilité de l'homme envers Dieu. Et cette hostilité, à son tour, elle a donné lieu à la mort. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'on trouve au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Dans cette situation tragique, Dieu aurait pu, il aurait eu tout à fait le droit de laisser l'humanité à son triste sort. Il aurait eu le droit, puisque Dieu Par définition, le créateur qui donne existence à toute chose a le droit de faire ce qu'il veut. Dieu aurait pu faire cela. Mais au lieu de ça, il va annoncer, dès le livre de la Genèse, une réconciliation future avec toute l'humanité. Quand je dis toute l'humanité, en tout cas avec des hommes et des femmes issus de toute l'humanité. Et en attendant cette réconciliation annoncée, Dieu a fait quelque chose de très étonnant. C'est qu'il a conclu une alliance avec un peuple en particulier, le peuple d'Israël. Et dans cette alliance dont nous parle l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, on voit que la vocation d'Israël, eh bien justement, c'était de vivre ce qui était prévu pour toute l'humanité, c'est-à-dire d'appartenir à Dieu. La vocation d'Israël, c'est d'être un peuple consacré à Dieu, un peuple qui appartient à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs images qui sont utilisées pour exprimer cette relation particulière d'alliance entre Dieu et son peuple. Et l'une des images, et c'est une image qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'image de la vigne. Elle revient dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Alors je pense que dans un pays méditerranéen comme Israël, c'était une image parlante, hein, des vignes, on en voyait autour de soi, partout. Ici à Paris, en banlieue un peu moins, quelques-unes. Dans le sud de la France, ça serait peut-être déjà plus parlant. Mais c'est en tout cas une image qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Jérémie, dans le livre du prophète Ézéchiel, dans les psaumes également. Et Dieu, en fait, se présente comme un vigneron, propriétaire d'une vigne, qui prend soin de sa vigne Israël et qui lui donne tout ce dont elle a besoin pour vivre cette relation avec lui. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les textes de l'Ancien Testament qui parlent de la vigne, qui utilisent cette image, il y a un résultat désastreux à chaque fois. La vigne, malgré tout le soin que Dieu prend pour elle, produit des fruits mauvais, donc elle faillit à sa vocation. Ésaïe nous dit même qu'elle produit des fruits puants, en tout cas c'est la traduction de la Nouvelle Bible Second, des fruits pourris, bref, Ésaïe 5, 1 à 6. Pourquoi cette image des fruits pourris? Parce que le péché, justement, cette disposition humaine à la révolte contre Dieu, elle ruine cette relation entre Dieu et son peuple. Et cet échec de la vocation, cet échec d'Israël, en fait, à remplir sa vocation, ça reflète finalement l'échec de toute l'humanité à remplir sa vocation. C'est le même constat. Toute l'humanité a été créée pour être en relation avec Dieu, échec sur toute la ligne. Israël a été appelé parmi les peuples à être en relation avec Dieu, échec également, à peu près sur toute la ligne. Donc la situation semble désespérée. Parce que malgré toute l'œuvre de Dieu en faveur de sa vigne, en faveur d'Israël, eh bien ce peuple, comme tous les peuples, a persisté encore et encore à désobéir. Et donc il y a un verdict vraiment sans appel dans l'Ancien Testament. L'homme, qu'il soit issu d'Israël ou non, se retrouve prisonnier de ce péché, aliéné de Dieu en quelque sorte, enfin même tout à fait, incapable de se délivrer de cette situation terrible. Et pourtant, en même temps, dans l'Ancien Testament, il y a un message très fort d'espérance. On ne croirait pas, vu le verdict que je viens de donner, mais il est très très présent, parce que d'autres passages reprennent l'image de la vigne, quelques-uns, pour annoncer que Dieu, à l'avenir, va planter une nouvelle vigne. Et cette vigne-là, cette fois, elle remplira enfin sa vocation. Elle va porter du fruit. C'est une nouvelle vigne qui symbolise une relation renouvelée et éternelle entre Dieu et son peuple. Pendant plusieurs siècles, les Israélites ont lu ces textes de l'Ancien Testament en se demandant ce qui allait bien pouvoir se passer pour que cette vigne rejetée, cette vigne qui produit des fruits et qui pue, soit remplacée par une vigne parfaite, produisant de beaux fruits. Parce que ils ont dû se dire, mais pourtant, les gens ne changent pas, les êtres humains sont toujours les mêmes. Et le verdict n'est quand même pas terrible. Et donc, c'est resté quelque part un mystère, jusqu'à ce jour, ou plutôt ce soir, plusieurs siècles plus tard, où Jésus, quelques heures avant sa mort, marche avec ses disciples pour se rendre au jardin de Gethsémané, où il va être arrêté. Ensuite, il va être emmené pour être crucifié. Et j'aurais pu lire le texte à ce moment-ci, je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez entendu donc ce qu'il leur dit. « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments, les branches. » Ce texte est centré sur la relation entre Jésus et ceux qu'il appelle ses amis, Et je relèverai trois idées fortes qu'on pourrait exprimer de la manière suivante. Jésus, la vraie vigne. Jésus, la vraie vie, en deuxième. Et puis enfin, Jésus et ses amis. Voilà, donc Jésus, la vraie vigne, tout d'abord. On a vu que la vigne donc, qui était décrite dans l'Ancien Testament, celle qui représentait Israël, elle a eu des résultats très décevants, vraiment même terribles. Elle qui devait produire des fruits pour Dieu, elle a produit des choses finalement répugnantes pour Dieu. Elle n'a produit que des fruits puants. Le peuple d'Israël a échoué dans sa vocation à être la vraie vigne de Dieu, comme tous les peuples. Mais écoutons ce que dit Jésus à ses disciples dès le verset 1. « C'est moi qui suis la vraie vigne. » Il va le redire au verset 5. Et dans les versets 1 à 6, Jésus développe une image à trois facettes. Il y a la vigne, le cep dans certaines traductions, c'est-à-dire la vigne précise, le vigneron et les sarments, ou les branches. Alors les rôles sont bien établis. Dieu est le vigneron. Cette image que Jésus utilise, elle est tout à fait dans la continuité de l'Ancien Testament. C'est toujours Dieu qui prend soin de sa vigne. C'est lui qui la plante d'ailleurs, et c'est lui qui en prend soin. Jésus est la vigne. Ça, c'est nouveau, et ça, c'est une image très étonnante. Parce que qui est la vigne dans l'Ancien Testament ? C'est le peuple. C'est le peuple d'Israël. Et donc, c'est comme si Jésus, en s'attribuant cette image, se présente comme celui qui, en sa seule personne, remplace le peuple d'Israël, se substitue à lui. Il va se substituer à lui, à ce peuple qui ne produisait pas de bons fruits, et il va être, lui, la nouvelle vigne de Dieu. Enfin, les disciples de Jésus, donc les 11 disciples présents à ce discours, il y en a un qui est parti peu avant, mais aussi par extension, ce texte concerne tous ceux qui ont choisi de confier leur vie à Jésus-Christ, qui sont également ses disciples, eh bien, eux sont décrits comme les sarments, les branches, pour utiliser un terme plus familier. Et c'est frappant parce que, pour Jésus, nous ne sommes pas la vigne. Il le précise, il dit, c'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Nous sommes attachés à la vigne. Nous sommes issus d'elle et nous dépendons d'elle. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici ? Je crois qu'il est clair, au vu de ces images, que Jésus se présente comme celui qui est ce qu'Israël n'a pas été. Ce que le peuple d'Israël n'a jamais réussi à faire, et le reste de l'humanité non plus, c'est-à-dire être parfaitement attaché à Dieu, parfaitement obéissant, produire des œuvres qui plaisent parfaitement à Dieu, qui sont vraiment en harmonie avec sa volonté. Et bien Jésus, lui, il l'a fait. Et quelles sont les conséquences de cela pour nous si nous sommes les branches ? Elles sont immenses. Jésus ne se contente pas de dire « Moi, je suis la vraie vigne de Dieu. Hein, vous n'avez pas réussi. Vous avez échoué sur toute la ligne. Regardez-moi, au moins, je suis la vraie vigne de Dieu. » Pas du tout ça son propos ici. Il est véritablement la vraie vigne de Dieu, mais il dit « Vous êtes mes branches, vous êtes mes sarments. » Il affirme que des hommes et des femmes pécheurs, rebelles à Dieu, comme chacun d'entre nous, peuvent devenir ses sarments. Et que, en tant que sarments de la vraie vigne, nous pouvons porter du fruit, produire du fruit. Verset 2, deuxième partie du verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. » Et verset 5, celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Jésus possède ce privilège extraordinaire d'être en relation parfaite, enfin ce privilège qu'il a depuis cette gloire qu'il a de toute éternité, d'être en relation parfaite, en communion perpétuelle avec Dieu, avec le Créateur. Et ça, nous en sommes incapables. Si vous regardez rien que la journée d'aujourd'hui, et vous vous posez la question, alors est-ce que j'étais en harmonie parfaite avec tout ce que le Créateur de l'univers peut vouloir de moi, sa créature ? Non, loin, très loin de là. Nous en sommes incapables. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes être en relation avec Dieu parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus dit à ses disciples que celui qui s'attache à lui peut être inclus, il peut être adopté dans cette relation parfaite qui existe entre lui et le Père. Et tout ce que nous étions incapables de faire, c'est-à-dire plaire à Dieu, eh ben on peut le faire maintenant en lui qui est la vigne. De temps en temps, ça m'est arrivé au moins deux ou trois fois, je viens ici à mon bureau depuis chez moi et j'oublie le câble d'alimentation de mon ordinateur portable, classique. Et à chaque fois que ça arrive, ben, je peux constater qu'un ordinateur ne sert pas à grand chose s'il n'est pas branché. Alors c'est vrai qu'il peut fonctionner pendant une ou deux heures sur batterie, peut-être mieux pour certains modèles plus récents, mais après, c'est fini. Et il a beau avoir été construit de manière très sophistiquée pour faire fonctionner plein de programmes, pour créer des documents, etc., ben, si on lui enlève le courant électrique, il ne peut plus faire ce pour quoi il a été conçu. Alors, comme toute illustration, elle est imparfaite, mais lorsqu'on confie sa vie à Jésus-Christ, c'est comme si on était branché sur lui, rattaché à Dieu lui-même, qui est la source de la vie. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le Créateur, celui qui nous donne le souffle, celui qui nous donne la vie. On est branché sur lui et on peut enfin donc faire ce pour quoi nous avons été créés. Alors, cette production de fruits, je reviens à l'image du fruit là, cette production de fruits n'est pas sans difficulté, elle n'est pas sans obstacle, elle n'est pas sans épreuve. Au contraire, Jésus dit explicitement ici que parfois, il va devoir tailler les branches pour qu'elles portent encore plus de fruits. Donc là, il fait référence à ce qu'on appelle émonder en fait, donc la vigne, donc tailler les branches pour les rendre d'autant plus fructueuses. Et là, je crois que clairement, il y a une image qui renvoie aux épreuves qu'on peut vivre et que Dieu utilise bien souvent pour renforcer notre foi, notre relation intime avec lui. Donc, et je pourrais parler bien plus longtemps de ce point précis, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais on retiendra en tout cas que voilà, ça n'est pas sans difficulté. Mais il y a une réalité fondamentale, une réalité organique, on pourrait dire, qui fait qu'on est rattaché. On est en Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'on porte du fruit. Parce que Jésus est venu pour faire ce qu'aucun homme et ce qu'aucun peuple n'a été capable de faire, vivre en conformité avec Dieu. Et nous pouvons connaître ce privilège extraordinaire d'être rattachés à lui pour bénéficier de sa relation avec Dieu. Et c'est ainsi et seulement ainsi, nous dit Jésus, que nous pourrons vivre la vie pour laquelle nous avons été créés. C'est la deuxième idée, Jésus, la vraie vie. C'est frappant parce que Jésus est en train de se diriger vers la mort, mais il parle à ses disciples de la vie. Juste après avoir annoncé sa mort, il sort de la maison avec ses disciples. Il commence un dernier discours qui nous est rapporté au chapitre 15, à partir du début du chapitre 15 jusqu'à la fin du chapitre 17. Alors certains commentateurs pensent que Jésus est sorti, il le dit à la fin du, si je ne me trompe pas, juste à la fin du chapitre 14, voilà, levez-vous, partons d'ici. Et là, il y a un grand débat théologique d'une importance capitale qui est de savoir, est-ce qu'ils sont levés à ce moment-là, ou est-ce qu'en fait, ce qu'on voit après, c'est la poursuite du même discours, et ils se sont levés après. Quand je dis grande importance, j'ironise. Ce qui est sûr, c'est donc voilà, il y a une hypothèse, c'est que Jésus est sorti et qu'ils ont commencé à marcher et que là, bah, ils sont dans un paysage, il y a des vignes autour d'eux. Et puis, bah, spontanément, ça l'a fait penser à cette métaphore des vignes. Bon, moi, je pense que c'était un petit peu plus réfléchi et prémédité que cela dans la tête de Jésus. Mais en tout cas, ça, disons que ça allait bien avec le décor. Donc, que leur dit-il ? Demeurez en moi, comme moi en vous. Alors, je ne sais pas si... J'imagine qu'il y a pas mal de personnes parmi nous qui ont grandi en allant à l'église, hein, pas tous, j'imagine bien, mais certains. Et peut-être que, voilà, vous connaissez relativement bien la Bible, et ces paroles-là, demeurez en moi, vous connaissez bien, vous avez entendu ça depuis longtemps. Et je crois que ce qu'on oublie, c'est que Jésus dit ça, demeurez en moi, comme moi en vous, alors qu'il est en train d'aller pour aller mourir sur la croix. C'est quand même paradoxal, quelqu'un qui s'apprête à mourir dit, demeurez en moi. Pourquoi ? Parce que, dit-il, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Fin du verset 5. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. On est loin ici d'une petite, d'une simple petite illustration agricole sympathique, hein, pour donner une petite histoire sympa que les disciples pourront retenir. On est dans un contexte extrêmement grave. Extrêmement grave. Et Jésus est en train de dire des choses très graves. Si on retourne au verset 1 et 2 pour voir ce que Jésus dit à ses disciples, il dit « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Et verset 4 « Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, vous ne pouvez pas porter du fruit, si vous ne demeurez en moi. » Alors là, le verset 6, c'est encore plus direct. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jésus semble bien affirmer ici que les conséquences sont terribles quand on vit sa vie en dehors de lui. En dehors de lui, il n'y a rien qui soit ultimement valable. Pour connaître Dieu, pour faire partie de la vigne du vigneron, il faut être enraciné en Jésus-Christ, la vigne. C'est bien le sens de ce qu'il dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui demeure en Jésus connaît une vie qui correspond alors à la vocation humaine. Il porte du fruit, versets 2 et 5. Il est purifié aux yeux de Dieu, verset 3. Il est établi dans une relation extraordinaire avec Jésus-Christ et avec le Père, verset 7. Jésus est en train de dire, voilà, pour vivre la vie véritable, il faut que vous demeuriez en moi. La vie, c'est moi, en fait. Et ça, il l'a dit explicitement peu avant ce discours-là, chapitre 14, verset 6, lorsqu'il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne dit pas « Je vais vous montrer quelle est la vie. » Il dit « Je suis la vie. » Et parce que c'est moi qui suis la vie, nous dit Jésus, vous devez demeurer en moi. Parce que, logiquement, si c'est moi la vie et que vous êtes hors de moi, vous êtes dans la mort. Vous n'êtes plus dans la vie véritable. Donc il ne s'agit pas ici simplement de dire je vous encourage à demeurer en moi si vous le pouvez. C'est vraiment, il faut que vous demeuriez en moi. Alors comment comprendre cette expression clé, demeurer en moi, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il ne s'agit pas ici simplement d'obéir à l'enseignement de Jésus. Je crois que c'est clair que Jésus parle d'une réalité relationnelle, quelque chose qui engage la vie de tous les jours. Alors une illustration qui peut peut-être nous aider à comprendre cela, c'est celle du mariage. Alors je sais que sans doute ici la majorité ne sont pas mariés. Moi, je n'étais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais je pense que c'est quand même une illustration qui peut nous aider un petit peu. Lorsqu'un homme et une femme se marient, on leur demande de demeurer l'un avec l'autre pendant toute leur vie. On leur demande de se promettre fidélité dans les bons comme dans les mauvais jours. Et qu'est-ce que ça implique concrètement dans la vie de tous les jours pour un couple? Ben, il me semble que ça implique au moins trois choses, certainement plus, hein, mais l'écoute attentive du conjoint, le fait de placer l'intérêt du conjoint au-dessus du sien. Donc j'accorde encore plus d'importance à l'intérêt de mon conjoint par rapport au mien, et l'exclusivité, c'est-à-dire je ne vais connaître avec personne d'autre le type de relation qui m'unit à mon conjoint. Alors là encore, une illustration, bien sûr, n'est jamais parfaite, et il y a des différences fondamentale, essentielle, entre la relation de deux personnes mariées et la relation entre un croyant et Jésus. Mais je crois que lorsque Jésus nous demande de demeurer en lui, il nous appelle à un engagement de toute notre personne, de toute notre vie, qui est comparable, tout en étant infiniment supérieur, à l'engagement du mariage. Lorsqu'il nous dit « demeurez en moi », il nous appelle à vivre une vie qui est entièrement définie par notre engagement envers lui. Une vie où on pourrait dire, moi, ma vie, en gros, c'est Jésus. Quoi. Tu veux savoir à quoi ressemble ma vie? Jésus. Ça résume bien. Je ne sais pas si on peut dire ça, je trouve c'est extraordinaire. C'est un sacré défi. Hein. Mais je crois que c'est vraiment à ça que Jésus nous appelle. Alors évidemment, ça peut être mal compris, genre moi, je suis comme Jésus. Donc il faut peut-être expliquer, donner un peu le contexte à la personne. Mais voilà. Une vie vraiment entièrement définie par notre engagement envers Jésus-Christ. Et une vie dans laquelle nous nous engageons vraiment de façon exclusive, là aussi, envers lui. C'est-à-dire que nous n'accordons à rien ni à personne d'autre cette relation totale que nous vivons avec lui. Une vie où nous nous posons sans cesse la question, comment est-ce que je peux honorer, comment est-ce que je peux servir Jésus-Christ dans mes actions, mes œuvres, mes décisions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas rien comme engagement. C'est énorme. Mais Jésus est en train de nous dire que la vie véritable, c'est ça. Et là, il va radicalement à contre-courant de tout ce que notre civilisation contemporaine prêche quotidiennement, hein, de ce qu'on entend tous les jours. Jésus est en train de dire que la seule possibilité pour l'homme de vivre une vie véritable, une vie conforme à l'intention de Dieu, c'est de vivre en relation directe avec lui, c'est d'être en lui. Pourquoi ? Ben là encore, parce que le péché nous rend incapables de vivre tel que Dieu nous demande de vivre. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et si on essaye de s'en sortir par nous-mêmes, on va avoir le même résultat que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des fruits purs. Parfois, il y en aura des meilleurs que d'autres. Mais globalement, le bilan, c'est qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Hop, on jette. Et Jésus est vraiment catégorique au verset 5 quand il dit « C'est moi qui suis la vigne ». Sous-entendu, c'est pas vous la vigne. La vigne, c'est moi. Vous, vous êtes les sarments. Une branche n'est rien sans l'arbre qui lui donne la vie. Quand vous coupez la branche, vous la laissez toute seule, elle meurt. Et de même, les disciples de Jésus ne sont rien et ne peuvent rien sans être attachés à Jésus, qui est la vigne, qui vit en parfaite conformité avec la volonté du Père, celui qui a planté la vigne, le vigneron. Jésus est clairement en train de dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'espérance, pas de vie véritable. Alors bien sûr, il y a une existence. Il y a une vie de tous les jours, évidemment. Il y a un travail, il y a une famille, il y a des joies aussi, qui sont aussi par la bonté de Dieu. Il y a des peines également. Jésus n'est pas en train de nier que les gens qui ne le connaissent pas ne vivent pas au sens quotidien du terme. Bien sûr que si. Mais la vie, la vraie, c'est pas au champ, hein, mais la vie humaine telle que Dieu l'a toujours voulu, une vie de relation constante et de communication parfaite entre Dieu et l'homme, cette vie-là n'est pas possible sans lui, parce que l'homme s'est révolté. Et la seule solution, c'est que cet homme révolté s'attache à celui qui est venu pour rétablir la vie véritable, qui est Jésus-Christ. Et Jésus nous met en garde. Celui qui ne demeure pas en lui se retrouve livré à lui-même devant Dieu. Il se retrouve dans son état de révolte, en fait, et donc il se retrouve sous le jugement de Dieu. Et il y a bien d'autres textes de la Bible qui évoquent cela. Dieu nous offre en Jésus-Christ un pardon parfait et définitif. Et alors si on rejette ça, si on dit non, je ne veux pas du pardon parfait et définitif, on voit mal ce qui reste. Donc demeurer en Christ, ce n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité vitale. Alors si on regarde un peu les versets 2 et 6, ils peuvent nous faire un peu peur. Parce qu'ils affirment que celui ou celle qui ne demeure pas en Christ sera, pour reprendre l'image, jeté au feu. Autrement dit, en perdition. Ce que Jésus dit ici, je pense, n'est pas que toute chute ou désobéissance vont nous faire, enfin j'en suis sûr même, il ne dit pas que toute chute ou désobéissance va nous faire perdre notre relation avec lui. Alors il y a une preuve de cela. C'est que peu après que Jésus ait prononcé ces paroles, l'un de ses disciples, Pierre, l'a renié 3 fois. C'est grave quand même. 3 fois il a dit « je ne connais pas ». Jésus, non, on ne connaît pas. Or il n'a pas perdu sa relation avec Jésus. Jésus l'a pleinement pardonné. Et Jésus l'a pleinement réhabilité. On voit aussi au verset 3 que Jésus dit de ses disciples qu'ils sont déjà purs à cause de la parole qu'il leur a dite. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer en détail dans l'analyse de ce verset, mais Jésus semble affirmer que les disciples appartiennent d'ores et déjà à la vigne et qu'ils portent du fruit. La question n'est plus de savoir s'ils sont dans la vigne ou pas. Mais ce que Jésus affirme clairement, c'est qu'il n'y a aucune espérance ultime en dehors de lui. Et si quelqu'un qui a semblé appartenir à Jésus s'éloigne de plus en plus de lui et semble vraiment ne plus porter de fruits, il y a un danger très grave. Et je crois que la Bible vraiment nous met en garde par rapport à cela. Si on s'éloigne de la source de la vie, vers où on va ? Vers la mort. Et donc là, je crois qu'il faut que les choses soient très claires là-dessus. Alors, je crois qu'il ne nous appartient pas je parle là pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, il ne nous appartient pas de regarder un peu les gens qui sont autour de nous, dire « Ah, celui-là, il s'éloigne, il ne doit pas vraiment appartenir à la vigne. » Je crois que seul Dieu sait cela. Et dans certains cas, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui n'appartient pas, qui n'est pas vraiment enraciné dans la vigne. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas profondément enraciné. Dans d'autres cas, ce sont des personnes enracinées qui sont dans une crise spirituelle et qui un jour, par la grâce de Dieu, vont revenir. Donc ça, seul Dieu le sait. Mais en tout cas, la mise en garde est claire. Jésus, c'est la vie, et donc si on s'éloigne de la vie, on va vers la mort. La promesse, c'est qu'en Christ, nous avons le pardon et la vie, nous avons une nouvelle relation avec notre Créateur, une relation de confiance, telle que Dieu souhaite combler celui qui s'est réconcilié avec lui. Il lui donnera tout ce dont il ou elle a besoin pour vivre sa vie éternelle. Pour vivre sa vie nouvelle et éternelle également. Et je vous propose de terminer avec le troisième grand point de ce texte. Jésus et sa relation avec ceux qu'il appelle ses amis. Les versets 9 à 17 sont très beaux, je trouve extrêmement émouvants. Souvenons-nous aussi du cadre, Jésus est en train d'aller à la mort. On sait aussi qu'il triomphera de la mort plus tard, mais pour l'instant il est en train d'aller à la mort, et il fait une véritable déclaration d'amour, on pourrait dire, à ses disciples. C'est très fort. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus aime ses disciples. Et on voit au verset 10 que ceux qui bénéficient de cette relation d'amour, ce sont ceux qui gardent les commandements de Jésus. Donc il y a une relation d'amour et en même temps une relation d'amour qui produit de l'obéissance, de l'harmonie entre ce que nous faisons et ce que Jésus aime, ce qu'il veut. Et ce qui est dit à la fin du verset 10, je trouve, est saisissant. Si les disciples gardent les commandements de Jésus, s'ils lui sont attachés, comme les sarments sont attachés à la vigne, c'est comme s'ils étaient intégrés à la relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils. Vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. C'est-à-dire que si nous confions notre vie à Jésus-Christ, nous sommes associés à la relation parfaitement intime, parfaitement confiante, éternelle, de l'amour de Dieu le Père pour son Fils unique. Je sais que là, je parle de choses qui sont, qui sont difficiles, complexes et mystérieuses. Hein. Je parle de la doctrine de la Trinité, etc. Il y a là un enseignement que la Bible, dans son ensemble, nous apporte. On le comprend en partie, on ne comprend pas pleinement. Dieu est celui qui est avant toute chose, hein. Donc il est comme il est. C'est pas à nous de dire comme Dieu doit être, c'est Dieu qui est comme il est, et c'est à nous d'essayer de comprendre comment on se positionne par rapport à lui. Donc même si on ne saisit pas tous les éléments de ce que ça veut dire, le Père qui aime le Fils, voilà le Dieu dont la Bible parle, un Dieu qui en lui-même est pleinement relationnel. Or cet amour par lequel le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père, et l'Esprit aime le Père, etc., cet amour nous est donné à nous aussi. Et ça, c'est extraordinaire, c'est presque inimaginable. Jésus va le dire même encore plus explicitement par ailleurs, Jean 14, verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et c'est encore plus fort même en Jean 17, verset 26, Jésus prie et dit à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé, sois en eux, comme moi en eux. » Voilà notre destin si nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes comme saisis, j'ai presque envie de dire capturés, dans une relation d'amour inimaginable et éternelle. Et je crois que ces paroles nous permettent de comprendre d'autant mieux ce que Jésus veut dire quand il dit, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Autrement dit, si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire, votre joie doit être complète. Comment imaginer un destin plus beau que d'être aimé par Dieu, le Créateur de toutes choses, aimé de ce même amour éternel dont il aime son Fils unique. C'est pas étonnant non plus que Jésus affirme que ses disciples sont bien plus que des esclaves, ce sont des amis, parce qu'ils sont intégrés à cette intimité qui existe entre le Père et le Fils. Et pour Jésus, cet amour que l'on reçoit doit se traduire automatiquement par un amour qui est donné. Hier, j'étais dans le métro, il s'est passé un micro-phénomène. Alors, je marchais juste derrière ma femme, et puis devant elle, il y avait une dame. Et puis, cette dame lui a tenu la porte, la porte après le tourniquet, Et en lui faisant un grand sourire, voilà, gratuit, sympa, sans raison. Et donc, ma femme s'est tournée vers moi et m'a fait un grand sourire. Et du coup, moi, quand j'ai tenu la porte pour la personne après, je me suis dit, il faut que je m'y mette aussi. Donc, j'ai souri aussi. Et je me suis dit, peut-être que la chaîne s'est arrêtée là, mais on pourrait continuer longtemps. Alors, blague à part, je crois qu'il y a quelque chose là qui reflète une réalité, c'est que quand on est aimé, on peut d'autant plus aimer en retour. Et je crois que donc, ce que Jésus nous dit, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est pas genre « aimez-vous les uns les autres, vite !» C'est c'est mais regarde, voyez comme je vous aime. Comment ne pourriez-vous pas vous aimer maintenant les uns les autres? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Et c'est de ça que découle ce commandement de s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, oui, il s'agit d'une obéissance à ce que Jésus nous ordonne. Il le dit d'ailleurs, c'est un commandement qu'il nous donne. Mais c'est aussi parce qu'on l'aime et donc on a envie de faire ce qui lui plaît. Et si on a connu l'amour de Jésus, cet amour inconditionnel, surpuissant, éternel, ben on n'a qu'une envie, c'est de le vivre et c'est de le partager. Et Jésus ici ne nous demande pas aussi de non plus d'imiter, enfin, il ne nous donne pas ici un commandement purement abstrait en disant, voilà, aimez-vous et puis à vous de voir ce que ça veut dire. Il nous demande de l'imiter, d'imiter son exemple. Lui qui a aimé au point d'être prêt, verset 13, à se défaire de sa vie pour ses amis. Et c'est à cet amour-là que nous sommes appelés. Le plus souvent, pour la plupart d'entre nous, j'espère même tous peut-être, il ne s'agira pas de se défaire littéralement de sa vie pour ses amis, c'est-à-dire on sera, pour la plupart d'entre nous, sans doute pas appelés à mourir pour ses amis. Encore que ce n'est pas exclu. Mais il s'agit plutôt de mettre de côté ses prérogatives, ses privilèges, ses intérêts immédiats pour se défaire de soi-même quelque part et donner la priorité à ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Et en faisant cela, on reflète la façon dont Jésus lui-même nous a aimés. Je ne sais pas si vous voulez y réfléchir, jusqu'à quel point seriez-vous prêt à mettre votre vie entre parenthèses pour le bien de vos amis? Pas évident, c'est une question intéressante à méditer. Jésus, lui, nous a aimés jusqu'au bout. Quelques heures seulement après avoir prononcé ces phrases, il est allé à la croix, pour vous et moi. Quelques heures seulement après avoir dit cela, il a souffert des souffrances physiques terribles, mais pire encore, des souffrances spirituelles inimaginables. Il a subi la colère de Dieu contre nos fautes, à notre place. Et c'est ainsi que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Parce qu'il s'est substitué à nous pour subir la colère de Dieu et pour nous offrir sa vie parfaitement réconciliée, parfaitement en paix avec Dieu. Si nous sommes indifférents à cet amour, si nous ne changeons pas radicalement de vie, c'est que quelque part nous n'avons pas compris qui est Jésus et nous n'avons pas compris ce qu'il a fait pour nous. Et Jésus nous appelle ses amis. Et nous sommes ses amis si nous vivons à notre tour cet amour dont il nous a aimés le premier. Et le dernier élément que je voudrais souligner, c'est le privilège qui vient de cette amitié avec Jésus. C'est celui de la prière. C'est ce privilège que Jésus souligne ici. Au verset 7 et puis ensuite au verset 16, il affirme que les disciples peuvent s'adresser directement au Père et obtenir du Père tout ce qu'ils veulent. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Je vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est vraiment l'image du Fils par lequel on connaît le Père, et donc comme on a maintenant une relation personnelle avec le Père, on peut sans crainte s'adresser au Père et lui demander tout ce que nous voulons. J'ai déjà donné cette image au culte ici, donc pardonnez-moi pour les quelques-uns qui viennent à l'église, mais moi, mon père, dans son travail, travaille beaucoup avec des mails. Il n'arrête pas d'envoyer des mails à plein de monde, à peu près 80 mails par jour, 80 à 100. Donc c'est une grande partie de son travail. Hein, et ça me frappe que lorsque je lui écris un mail, la plupart du temps, j'ai une réponse dans la journée. Et des fois, je me dis, mais mince, c'est fou quand même. Il a plein de trucs à faire et il prend du temps quand même pour me répondre. Et je pense que c'est pas étranger au fait que je suis son fils et qu'il y a là une relation privilégiée. Et je crois que de même Jésus nous dit, lorsque nous sommes en relation avec le Père par lui, il y a une liberté qui vient de ça. On peut demander à Dieu et on peut être parfaitement confiant en la réponse de Dieu. Ce que Jésus n'explicite pas ici, parce que je crois que pour lui ça va de soi, c'est que l'idée là, c'est pas de se dire, ah chouette, je vais pouvoir demander à Dieu un iPhone ou un rencard avec une telle ou je ne sais quoi, et c'est certain, voilà, je vais l'obtenir. Jésus a bien dit, hein, demandez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Je crois que Jésus ici part du principe que les disciples, parce qu'ils auront compris combien Dieu les aime, ils auront compris le privilège extraordinaire de vivre avec lui, les disciples voudront les choses les meilleures. Ils ne vont pas demander à Dieu des choses médiocres. Si vous êtes chrétien, j'espère que vous mesurez le privilège impensable que vous avez de communiquer à volonté à n'importe quel moment avec le Créateur de l'univers. Et je pense que si on comprend vraiment ça, on ne va pas lui demander n'importe quoi, ou même des choses qui... Enfin, je veux bien être clair sur ce que je veux dire là. On ne va pas parler à Dieu comme si c'était un distributeur de cadeaux. On va plutôt lui demander de le connaître toujours mieux et d'être dans une relation toujours plus proche avec lui. On va lui demander des choses qui concernent notre vie tous les jours. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la liberté qu'on a avec lui. Mais on va lui demander précisément et avant tout les choses qui nous le feront connaître toujours mieux et qui vont nous aider à vivre cette vie qu'il nous appelle à vivre. Je crois que Jésus ici nous dit que tout ce que nous demandons en son nom, c'est-à-dire par le privilège que nous avons avec lui, de cette relation avec le Père, et tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous l'accordera. Et il y a tellement de choses dans la Bible, tellement de promesses sur des choses que Dieu veut nous donner. Et je crois que là, il y a une invitation à demander à Dieu de nous donner ce qu'il a promis de nous donner. Et Dieu va le faire, parce qu'il nous l'a promis. Donc là, il y a quelque chose, je crois, de très fort. C'est vrai, si je demande un iPhone à Dieu, c'est pas sûr qu'il le pourvoie. Je ne crois pas que c'est ça que Jésus dise ici. Peut-être, hein, peut-être qu'il trouvera le moyen de le faire, mais il n'y a pas de garantie. Parce qu'il n'est pas certain que ce soit le besoin le plus grand que j'ai, et que ce soit vraiment ça sa volonté pour ma vie. Je ne pense pas. Par contre, quand je demande des choses dont je sais que Dieu veut que je le fasse dans ma vie, il va me le donner. En quelque sorte, si nous voulons porter du fruit, il faut demander à Dieu de nous aider à porter du fruit. Voilà la vie en Jésus-Christ, et je pense que si on l'a bien compris, et quand je dis si on l'a bien compris, ça prend toute une vie de bien le comprendre, quelque part. On ne l'a jamais assez compris. Hein. Mais si on l'a bien compris, je crois que de plus en plus, on va se dire, mais il n'y a rien de plus désirable que ça. Qu'est-ce qui pourrait y avoir dans nos vies qui rivalise avec cette réalité-là? Alors bien sûr, il y a plein de choses dans la vie qui nous intéressent, dans le quotidien, dans les relations, etc. C'est normal, c'est Dieu qui a créé les choses ainsi, mais tout cela doit être mesuré, doit être placé sous l'autorité de Jésus-Christ, parce que c'est en lui et en lui seul que la vie est véritable.